de 27 millions d'euros. Aujourd'hui a lieu l'ultime conseil d'administration du comité d'organisation des JO. Il décidera du devenir de cet excédent qui devrait servir à alléger les contributions publiques et à financer le développement du sport en France.
Merci beaucoup Cécile Mérieux. On vous retrouve à 8h pour le prochain Rappel des titres. Et Louis Dauphren, ce matin, votre grand témoin est le pianiste Jean-Nicolas Yadkin.
Le concert de l'actualité est souvent fracassant ou alors il est ennuyeux. Il retentit comme une cymbale qui nous abîme l'oreille. Si on allait chercher une forme d'excellence, après tout, c'est la semaine de l'excellence avec Notre-Dame de Paris et la réouverture. Eh bien, la musique en offre une grâce au clavier de Jean-Nicolas Yadkin, dont la critique souligne la qualité des interprétations et même le caractère visionnaire, ce qui n'est pas forcément simple à définir en musique. Mais justement, il va nous y aider. Car du bout des doigts, il faut s'en convaincre, on peut transmettre une vision personnelle de la vie qui ne veut surtout pas nous éblouir par sa brillance. C'est une phrase de Rémi Franck, et journaliste critique pour Pizzacato Magazine. Et donc, Jean-Nicolas Yadkin est en concert, c'est lundi prochain, lundi soir, à la salle Gaveau, et nous sommes partenaires de cette opération. Il y a d'ailleurs des places à gagner au cours de cette émission. Il posera une question tout à l'heure, il faudra y répondre en m'écrivant tout simplement. Bonjour Jean-Nicolas Yadkin.
Bonjour Louis Dauphren.
Avec un CV qui accompagne, un CD, il y a votre CV déjà, mais le CD, il est aussi présent. Et on pourra d'ailleurs la voir, salle Gaveau, lundi soir prochain, qui s'appelle Live, tout simplement, que vous avez enregistré tout récemment. Ce qui fait votre singularité, il va falloir un petit peu raconter votre parcours, c'est que vous avez commencé le piano à l'âge de 6 ans, mais votre carrière en soliste, c'est à l'âge de 30 ans.
Exactement. Écoutez, j'ai la chance d'être né dans une famille de psychanalystes et donc de personnes très bienveillantes à l'égard d'autrui. Et lorsque j'ai manifesté des dons pour la musique, ils ont été un petit peu effrayés. Et ils se sont dit, voilà, les enfants prodiges, ils sont un peu asociaux, il ne faut pas le mettre dans un élevage pour virtuose. Et donc, ils m'ont poussé à faire des études classiques, dont j'ai eu un bac C.
Donc, mathématiques à l'époque ?
Voilà, mathématiques, c'est exactement. Donc, je m'intéressais aussi à la philosophie. Donc, ensuite, mon professeur, qui était désespéré, attendait enfin le feu vert de mes parents, qui est venu, et j'avais déjà 17 ans, pour commencer à travailler mon piano H24. Et à ce moment-là, mon professeur de piano, que j'aimais beaucoup, malheureusement, a commencé à manifester des signes de dépression très graves. Et j'ai dû malheureusement le quitter. Mais je voulais être fidèle à la ligne qu'il m'avait fixée, qu'il m'avait montrée, et qui était l'école du grand pianiste chilien Claudio Arrau. Donc mon professeur était argentin, donc pour lui c'était un peu son dieu. Et il m'avait emmené à l'âge de 8 ans, à un concert d'Arrau, et Arrau jouait la sonate de Liszt. Ça, c'était un choc très important.
Une révélation.
Voilà. Et ensuite, j'ai donc cherché des élèves d'Arrau, et comme il n'avait pas d'école, il n'a pas créé de conservatoire, il fallait que je trouve des élèves authentiques, et ce que j'ai fini par faire. Et j'ai travaillé avec une élève d'Arrau qui habitait Londres, et ça, j'ai commencé à l'âge de 25 ans, donc c'est très tard. Mais grâce à cette femme, j'ai pu récupérer ma technique et faire progresser sérieusement.
Sans passer donc par la case conservatoire.
Exactement.
Et ça, c'est exceptionnel.
Alors ça, c'est exceptionnel. Mes parents n'étaient pas tout à fait contre, mais mon professeur, dont je vous parlais au départ, lui, il était très contre parce qu'il avait une vision du conservatoire très négative, en étant peut-être réfugié argentin. Il se dit qu'en France, on ne connaît pas la musique, ce genre de choses. Donc ça m'a un peu isolé. Et finalement, ça m'a donné l'occasion de construire ma vision personnelle des choses. Donc j'ai fait une sorte de... J'ai englobé tous les domaines que je connaissais. C'est peut-être ça qui fait ma caractéristique.
Vous vous êtes construit en dehors, finalement, de ce qui, aujourd'hui, fournit la plupart des pianistes sur le marché international de la musique classique.
Voilà. Et alors, il se trouve que j'ai aussi eu un parcours ultérieur qui était très précieux, parce que je suis devenu accompagnateur pour chanteurs. J'ai travaillé dans une école de chant qui réparait les voix chez Eva Barthélémy. Et grâce à ça, j'ai rencontré deux très grands chanteurs avec qui j'ai fait des concerts et des disques, Alicia Naffé et Zegar van der Steen, qui sont devenus bien sûr des amis aussi. Et pendant donc 7-8 ans, j'ai fait exclusivement ça. Et un jour, après avoir accompagné Anicia au grand auditorium de Madrid lors d'un concert, je me suis dit, et pourquoi pas moi? Pourquoi je ne ferais pas ça en soliste maintenant? Voilà, et à partir de l'an 2000, j'ai décidé...
Vous êtes lancé.
Voilà, de faire des concerts en soliste.
À ce moment-là, est-ce que tout ce qui va autour de l'artiste suit dans le choix que vous avez fait? C'est-à-dire, il faut avoir un agent, il faut avoir un certain nombre de soutiens aussi qui vous permettent de vivre de ce métier?
Absolument, donc j'avais des soutiens sur le plan familial, donc ça c'était très précieux. Sur le plan du réseau, évidemment, quand vous n'êtes pas du conservatoire, vous n'avez pas fait les concours, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il faut convaincre une personne après l'autre, et c'est ce que j'ai fait depuis.
Comment voilà. Le fait-on?
Eh ben, il faut jouer, il faut se faire entendre, et il faut aussi dialoguer, il faut se faire apprécier. Et je crois aussi que, je suis devenu bouddhiste grâce à un de mes professeurs de piano. Et dans le bouddhisme, on enseigne beaucoup la bienveillance. Et la bienveillance envers même les personnes qui vous sont hostiles, parce que la bienveillance envers les amis, c'est assez facile. Voilà. Et donc, je pense que ça crée une connivence avec le cœur humain qui est assez, assez grande.
En avez-vous voulu à vos parents ?
Alors, au départ, oui, parce que je me suis dit, ils n'ont pas reconnu mes talents, etc. Et bien après, je leur ai été très reconnaissant, parce que finalement, ça m'a permis d'avoir une vision de la vie qui était la mienne.
Quelle est-elle, cette vision de la vie, Jean-Nicolas Diatkine ?
Alors, ma vision de la vie, c'est que chaque personne possède la capacité de s'illuminer de l'intérieur. Et l'illumination, ça, c'est très simple, ça consiste à purifier ses 6 racines, donc, c'est-à-dire la conscience, et les 5 sens. Et c'est ça que j'ai rencontré à travers le bouddhisme, c'est une pratique qui permet de purifier son écoute et son attention envers les autres et sa bienveillance.
C'est une sorte voilà. De technique de diététique.
Voilà, alors c'est en fait le Bouddha a réussi à donner un nom à la vie. Et ce nom, c'est Nam-myoho-renge-kyo, c'est le nom de la vie qu'il lui a donné, c'est le titre du Sutra du Lotus. Et en récitant ça, ça a l'effet tout à fait naturel de purifier notre façon de percevoir les choses. Et j'ai rencontré ça un peu par accident, puisque un de mes professeurs, à qui j'ai demandé un exercice pour mieux se concentrer, m'a parlé de ça. Je l'ai essayé comme un exercice presque solfégique, si vous voulez. Et j'étais très surpris du résultat.
Mais peut-on parler d'une religion ?
Effectivement, c'est une philosophie, c'est une pratique un peu comme le yoga, si vous voulez. On fait ça 2 fois par jour, voilà. C'est une religion dans le sens que ça nous relie à l'univers et aux autres.
Mais c'est un peu une pratique médicinale.
Voilà.
Enfin, en tout cas, vous le concevez comme tel.
Pas médicinale, mais enfin, diététique, on va dire, une diététique de l'esprit.
Estimez-vous qu'elle contredit la foi chrétienne ?
Pas du tout. Au contraire, elle s'accorde très très bien. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup d'amis croyants. Et on est souvent très d'accord sur beaucoup de choses.
Quand vous dites ça marche, vous résumez, vous avez dit une phrase, en quelque sorte, vous avez été surpris par l'effet que vous n'en attendiez pas forcément.
Oui.
Comment le constatez-vous ?
Eh bien, écoutez, c'était très simple. En tant que pianiste, j'ai besoin d'avoir une perception du clavier et de la musique qui soit claire. Et à cause de mon émotivité, si vous voulez, c'était difficile. Donc là, j'ai constaté que je voyais mieux le clavier, que je percevais mieux les sons, j'étais plus maître de moi-même. Et que je laissais l'émotion exister sans en être perturbé. Donc ça, pour les musiciens, c'est très important, parce que souvent, on réfrène l'émotion pour être maître techniquement, pour jouer propre, et à ce moment-là, on devient froid. Donc ça, c'est un grand souci pour les musiciens.
Y a-t-il un travail que le pianiste fait sur sa mémoire pour jouer une partition sans l'avoir sous les yeux?
Alors, tout à fait. Il y a une partie qui est naturelle, parce que lorsque vous aimez quelque chose, vous vous en souvenez, donc ça, c'est le côté humain. Le côté technique, c'est qu'il y a beaucoup de façons de rentrer dans une partition. Et donc, c'est avec mon maître Narcisse Bonnet que j'ai eu l'occasion de le faire de façon très scientifique, je dirais. à savoir que donc chez un compositeur, les choses ne viennent pas simplement comme ça veut, c'est pas une improvisation. Donc on suit un certain nombre de règles et c'est comme la grammaire, si vous voulez. Et dans la grammaire, il y a des points, il y a des virgules, il y a des suspensions. Et lorsque vous lisez un texte, la même façon, vous vous arrêtez à un point, vous suspendez la lecture à la virgule, etc. Donc il y a tout un codage. Et lorsqu'on regarde la partition de très près, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont indiquées sous la forme des symboles, des notes, mais qui sont souvent, qui passent à l'as parce qu'on ne fait pas attention, on les lit trop vite. Et certains détails peuvent être déterminants pour comprendre l'intention du compositeur.
Par exemple ?
Alors, par exemple, le premier impromptu de Schubert que je vais jouer, Salgavo, le 16, au départ, j'en avais une vision comme une sorte de marche un peu triste, un peu funèbre, lugubre. Et la fin du morceau comporte des indications assez étranges, c'est-à-dire que le thème principal revient, mais il est marqué triple piano, et avec des indications d'accent, et donc des crescendo, c'est-à-dire on joue un peu plus fort, un peu moins fort, comme si c'était pas si piano que ça, c'est-à-dire que pour faire ça, il faut qu'il y ait du son. Et en regardant cette phrase, je me suis dit, mais finalement...
Donc cette phrase musicale.
Cette phrase musicale évoque plutôt, en fait, une musique lointaine. Et le triple piano ne veut pas dire que c'est mou ou faible, ça veut dire que c'est loin. Et si c'est loin, ça veut dire que c'est spatial, c'est-à-dire qu'il y a peut-être... Le compositeur a imaginé quelqu'un qui entendait une marche au loin et qui s'éloigne.
Jean-Nicolas Dietkin, quand vous allez jouer, donc lundi prochain, vous allez jouer de mémoire Liszt, Schubert, Beethoven... Les grands compositeurs laissent-ils des notes d'accompagnement d'une œuvre pour savoir comment l'interpréter ? Quand vous dites l'intention de l'auteur, le pianiste doit fidèlement entrer dans cette intention, dans l'esprit de cette intention, ou bien la qualité de l'interprétation repose-t-elle justement sur la liberté qu'il prend par rapport à l'intention de l'auteur ?
Alors, effectivement, ça peut être les deux, pour des raisons d'instrument, à savoir que Beethoven, Schubert et Bach ne composaient pas pour le piano moderne. Donc, évidemment, il faut faire des adaptations en fonction du piano sur lequel on joue. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je pense que quand on a affaire à des grands génies comme ça, il y a tellement d'informations à exploiter qu'on n'en a jamais fini. Donc, se mettre à maquiller les choses parce qu'on ne les comprend pas forcément, c'est un peu risqué.
Voilà. On écoute Jean-Nicolas Dietkin, quelques notes de l'Ave Maria. À la vérité, avec la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est de circonstance. C'est aussi la raison un petit peu de votre présence. On est dans une semaine, je le disais tout à l'heure, dominée par l'excellence. Quelques notes et vous allez poser une question juste après. L'Ave Maria qu'il faut imaginer, le regard levé vers les voûtes de la cathédrale. Si vous avez la chance d'y aller prochainement et de pouvoir constater sa beauté. L'Ave Maria interprétée par Jean-Nicolas Dietkin au piano et qui sera donc lundi soir Salgavo. Il y a une question à poser si on veut justement gagner des places grâce à vous, Jean-Nicolas Dietkin. Pour lundi soir prochain, je rappelle que vous allez jouer Beethoven, Liszt et Schubert. Non, pas Wagner lundi. Wagner, ce sera pour une autre fois sans doute.
Et Bach.
Et Bach. Voilà. Bach, vous allez jouer d'ailleurs en entrée, voilà, avec le concerto italien.
Voilà. Et la question porte là sur le concerto italien. Le concerto italien est une œuvre pour clavecin seul. Et donc, pourquoi Bach l'a-t-il appelé concerto et pourquoi italien ?
Pourquoi italien ou pourquoi concerto ?
Les deux.
Les deux. Mais ça tient en une seule réponse.
Voilà.
Bon. Et donc, il faut répondre à cette question. Pourquoi le concerto italien de Bach s'appelle-t-il comme tel ? Il sera donc interprété par Jean-Nicolas Diatkine. Vous m'écrivez à direct@radionotredame.com, tout simplement direct@radionotredame.com. Et vous irez donc Salle Gaveau lundi soir prochain avec des places à gagner pour deux personnes. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir y aller. Peut-être initier aussi à la musique classique un public qui n'y est pas forcément habitué. Est-ce que vous sentez d'ailleurs que ce milieu repose, Jean-Nicolas Diatkine, sur une forme peut-être d'entre-soi et qu'il convient d'élargir ce que l'on appelle d'ailleurs musique classique ? Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet.
Oui, absolument. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un entre-soi, mais je pense aussi qu'il faut faire preuve de pédagogie, mais en même temps de partage, parce que la pédagogie voudrait dire qu'on se met au-dessus, et ce n'est pas mon intention. Je pense plutôt qu'il faut essayer de partager les choses pour les répandre et que chacun les ressente à l'intérieur de soi. Je crois fondamentalement que tout le monde a une musique à l'intérieur de soi. C'est un peu lié à ma croyance bouddhique, on va dire, mais que cette musique-là a besoin d'être simplement stimulée. Et en fait, lorsque vous écoutez de la musique, c'est votre propre musique que vous écoutez.
Cette composition, alors quand on interprète, est-ce qu'on désire faire de l'orchestration ensuite, chef d'orchestre ? Est-ce qu'on désire aussi composer soi-même ?
Alors, en effet, lorsque j'étais très jeune, je voulais être chef d'orchestre, parce que je trouvais que c'était une chose évidente pour moi, et j'ai pas encore perdu l'intention de le devenir. Simplement, en effet, lorsque j'en ai parlé à mon maître Narcisse Bonnet, il m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu veux devenir chef d'orchestre, puisque tu es pianiste, et dans le piano, il y a tout l'orchestre. Et donc, consacre-toi plutôt à essayer de faire sonner le piano comme l'orchestre. Voilà, donc c'est un travail.
Un travail et peut-être une réponse à des interrogations, si jamais... Mais comme vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, devenu pianiste à l'âge de 30 ans, pourquoi pas chef d'orchestre, après tout, dans quelques années.
Absolument.
Merci Jean-Nicolas Diatkine. Et on se dit à lundi prochain, lundi soir, Salle Gaveau à Paris, dans le 8e.